France Culture.
Toute cette semaine, entendez-vous l'écho consacre ses émissions aux grandes problématiques agricoles. Après avoir analysé la rationalité économique des agricultrices et agriculteurs qui décident de se tourner vers le bio, c'est dans un lieu emblématique d'une certaine vision de l'agriculture et de ses évolutions depuis le 19e siècle que nous nous rendons aujourd'hui, la Beauce.
La Beauce apparaît à tous comme un vaste plateau monotone lorsqu'on la traverse par l'autoroute ou par le TGV qui aujourd'hui coupe cette région en deux. Les sols et les conditions d'exploitation agricole sont toutefois très divers. Si j'ai choisi la Beauce qu'on appelait Pouilleuse, c'est parce qu'en un demi-siècle, elle est passée de la culture extensive, à faible rendement, à une culture céréalière intensive à très haut rendement. La reconversion des bâtiments de cette ferme en témoigne. Et nous sommes avec vous, Jean-François Pousse, dans un bâtiment qui, jadis, était une bergerie.
Oui. C'était une bergerie et ça a été transformé et amélioré en garage à tracteurs et atelier.
De la bergerie au garage à tracteurs, une évolution qui témoigne de la façon dont l'agriculture s'est reconfigurée au cours des décennies dans cette large plaine d'environ 656 000 hectares, à cheval sur plusieurs départements au sud de Paris et surtout située au-dessus d'une nappe phréatique, la nappe de Beauce, qui permet à 56% du territoire d'être potentiellement irrigable alors que ce chiffre est en moyenne de 11% en France. Des conditions donc particulièrement propices à une agriculture qui s'intensifie progressivement et qui permet à la Beauce de garder son étiquette de grenier à blé de la France. Au gré des politiques agricoles et des stratégies des agriculteurs et des propriétaires de ces terres qui font la valeur du territoire, c'est tout un modèle en soi qui se met en place et voit les céréaliers acquérir une réputation bien particulière au sein du monde agricole, entre niveau de vie plutôt confortable et usage des pesticides et autres engrais auxquels ils sont de fait exposés, de même que les populations environnantes, des hectares à perte de vue, des mythes et des machines. Voilà le programme de cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Jean-Guy Lamège. Les deux invités sont avec nous aujourd'hui pour arpenter ces très 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 nombreux hectares. Monique Poulot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, professeur à l'université Paris-Nanterre. Thierry Pouge, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes quant à vous économiste, chef du service études et prospectives à Chambre d'agriculture France et chercheur associé au laboratoire Regard de l'université de Reims, Champagne-Ardennes. Alors tout au long de cette émission, nous allons diffuser des extraits d'une émission culte de France Culture, Le Pays d'ici, qui a été diffusée d'octobre 1984 à octobre 1997 et qui en 1991 s'était rendue sur ce territoire de la Beauce et en avait tiré 4 épisodes d'une cinquantaine de minutes, riches de témoignages qui racontent les modes de vie, les modes de production et les paysages aussi de la Beauce, comme le fait Jacques Cloarec, spécialiste des paysages de la région depuis la ferme du Tanon.
En faisant ces 80 km qui séparent Paris de cette région, la partie de Beauce qui se trouve entre Dourdan et Ably, avec un épais limon, des boqueteaux à gibier espacés les uns des autres, à un moment donné, à 4-5 km d'ici, j'ai vu le paysage changer à quelques éléments. Les haies devenaient plus épaisses, les boqueteaux plus larges, avec des pins d'Autriche, dont certains d'ailleurs étaient malades, et des dénivellations. Et la terre changeait de couleur, de brune qu'elle était dans la grosse Beauce grasse. Elle est devenue plus légère, plus pierreuse. Le sentiment d'un appauvrissement du paysage et de la terre, mais très fugitif comme sensation.
Monique Poulot, la Beauce est une région naturelle, au même titre que le Perche ou le Gâtinais qui l'entourent respectivement à l'ouest et à l'est. La région compte environ 500 communes réparties entre l'est de l'Eure-et-Loire, l'ouest du Loiret, le nord du Loiret-Cher et le sud de l'Essonne, et puis le sud des Yvelines. Et puis on l'entendait dans cet extrait, il y a l'idée un peu de deux Beauces, une grosse Beauce grasse et puis une Beauce, et ça on l'entendait dans le premier extrait, une Beauce pouilleuse. Est-ce que de fait il faut distinguer effectivement plusieurs Beauces à l'intérieur de la Beauce? Et puis ce qui fait, à contrario, l'homogénéité aussi de cette région.
Alors c'est vrai que le terme Beauce est un terme générique qui désigne à la fois une plaine, un plateau. C'est vrai d'ailleurs que les gens de Beauce se disent plutôt une plaine quelques plateaux, hein, ce qui est intéressant de voir une appréhension en quelque sorte du paysage. Terme générique, d'ailleurs, qui a été transporté puisqu'il existe une Beauce au Québec. Donc ça montre bien que ça n'a... Mais c'est vraiment cet aspect de platitude qui l'emporte. Alors Beauce, en effet, à la fois homogène dans ses caractéristiques physiques, puisque comme vous l'avez dit, c'est une région naturelle. Qu'est-ce qu'on appelle région naturelle ? Eh bien, on appelle une région où on a des conditions géomorphologiques, géologiques, de sol qui sont... un peu semblable. Donc, dans ce cas présent, on est dans le bassin parisien, dans le bassin sédimentaire. Se sont déposés des sédiments à l'époque tertiaire, pour faire vite, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On est sur des sols calcaires, enfin des roches calcaires. Donc, c'est l'essentiel de la Beauce. Et puis ensuite, se sont déposés des limons qui vont donner justement des sols variés. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de plusieurs Beauces ? Parce que si le calcaire est vraiment le substrat majeur, les quantités de limons déposés sont différentes. Donc on va avoir des limons qui sont plus ou moins épais. Donc selon l'épaisseur des limons, on va avoir des sols plus ou moins riches. On parlera de sols peu lessivés, ce sont les sols riches, les sols plus lessivés, ce sont des sols plus pauvres. Et donc assez logiquement, on va avoir ainsi alors deux Beauces. C'est vrai, on parle d'ailleurs de la grande Beauce quand on est dans la Beauce de l'Eure-et-Loir, et on parle de petites Beauces, notamment pour le Loir-et-Cher, même pour le Loiret, qui est pourtant avec des conditions qui sont très favorables, et on va parler de Beauce tout court, d'ailleurs dans les Yvelines. Donc on voit très nettement cette idée de plusieurs Beauces, qui est liée vraiment, enfin on peut prendre cet élément majeur, ces aspects pédologiques qui sont essentiels.
Et qui, on va le voir, Monique Poulot, vont marquer aussi potentiellement différentes approches de l'agriculture et différentes formes de mécanisation aussi pour contrebalancer cette configuration naturelle.
Et c'est clair que notamment ce que l'on évoquait comme petite Beauce, on a des sols moins riches, des sols plus caillouteux aussi. Donc il est clair que la mécanisation a été différente. Il a fallu attendre plus longtemps pour que l'on ait vraiment une... révolution agricole, hein, puisque c'est le terme que l'on emploie, et ça évoque, on a évoqué tout à l'heure la Beauce pouilleuse, ça nous évoque aussi la Champagne pouilleuse, hein, avec des points assez communs, et on voit bien que dans le cas de la Champagne pouilleuse, on est vraiment dans une mise en culture beaucoup plus récente, même chose pour la Beauce pouilleuse, alors que la Beauce ancienne, le point fort en quelque sorte de la Beauce, on pourrait dire ça, on est dans une mise en valeur très ancienne avec, on pourrait dire, une sédimentation de la culture céréalière depuis pratiquement le Moyen-Âge.
Alors justement, cette culture céréalière qui imprègne de fait le territoire, alors certes à différents niveaux, on va dire, et avec différents niveaux de développement, Thierry Pouche, ce niveau-là a donné lieu à un grand mythe, en tout cas une grande étiquette qu'on a déjà évoquée, que l'on appose très généralement à la Beauce, celui de grenier à blé de la France. En 2020, les exploitations y sont présentes. Ils exploitent 656 000 hectares, on l'a dit. 80% sont situés en centre-Val de Loire, 20% en Île-de-France. Très concrètement, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on cultive en Beauce ?
On cultive essentiellement des céréales et aussi des oléagineux. Alors, faut pas non plus exclure qu'il y a des résidus, ça a été dit un petit peu dans le reportage au début, des résidus de production animale. Il y a encore un peu de lait dans la région centre-Val de Loire, mais ça reste maintenant très, très marginal. Donc, on a du blé tendre dans une très, très grande majorité. Un tout petit peu de blé dur, même si c'est pas tellement la région propice. Un peu d'orge, de l'avoine, du seigle aussi. Et puis, comme je l'ai dit, un peu d'oléoprotéagineux, c'est-à-dire colza, tournesol, un peu de pois quand c'est possible. Et je n'oublie pas, dans ces grandes cultures quand même, un produit qu'on mange assez fréquemment, la pomme de terre. Il y a encore un peu d'hectares dédiés à la culture de la pomme de terre qui fait partie dans les nomenclatures de ces grandes cultures, au même titre que la betterave. Mais essentiellement, on est quand même, quand on évoque la Beauce, on est bien d'accord, même si, évidemment, ça, pour les céréales, ça recoupe pas complètement la région Centre-Val-de-Loire, mais on est sur un bassin de culture réputé, qui a toujours eu une production suffisante avec des rendements à peu près équivalents à ceux de la moyenne nationale, même s'ils sont un tout petit peu inférieurs.
Et c'est intéressant, Thierry Pouche, cette distinction entre la nature des cultures, vous venez de le dire, plus de la moitié des exploitations relève des céréales et oléoprotéagineux, contre à peine 20% dans le reste de la France. Est-ce que c'est ça qui fait la spécificité de la Beauce, ou est-ce que c'est au contraire ce que vous venez d'évoquer, des rendements particulièrement importants? Parce qu'on pourrait se dire, il y a d'autres endroits en France où on cultive du blé, de l'orge et autres, on va dire, céréales.
Oui, oui, vous avez évoqué avec Madame Poulot la Marne, justement. Vous avez là aussi des grandes plaines céréalières. En termes de rendement, la région Centre-Val de Loire, en 2024, c'était à peu près pour l'ensemble des céréales 72,3 quintaux hectares, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale, et pour le blé tendre, on était à 72 quintaux. Mais c'est quand même inférieur à d'autres bassins de production, puisque le département de la Somme, par exemple, qui a des terres extrêmement riches, peut atteindre des rendements qui peuvent être compris, selon les années, entre 80 et 100 quintaux hectares. Donc, on est là sur quand même une autre région assez favorable pour la culture du blé tendre et des céréales.
Alors la Beauce n'a peut-être pas le monopole de la culture du blé tendre ou du blé dur ou de toute autre céréale. Elle a en tout cas peut-être le monopole de rester dans les imaginaires comme cette vaste plaine qu'on évoquait à l'instant.
Nous sommes en Beauce, bien sûr, à Tillet-le-Penneux, à une trentaine de kilomètres au nord d'Orléans. Le ciel roule des montagnes de nuages avec à cette heure-ci, ou d'habitude, de beaux couchers de soleil vers Châteaudun. Par-dessous, le plateau s'aplatit d'autant plus sous le regard. Des terres sans limite, sans repère, à peine un petit bois quelquefois. Comme celui qu'on aperçoit, Paul-Henri Doublié, il est au bout, à la limite de vos terres. À quelle distance environ?
À la limite de mes parcelles, à environ 1,5 km.
Vous cultivez 120 hectares, vous êtes locataire et non pas propriétaire. Qu'est-ce que vous cultivez essentiellement?
Alors je cultive essentiellement des céréales, du blé dur, du blé tendre, aussi de l'orge de brasserie, du maïs et des pois protéagineux, et aussi des cultures légumières sous contrat avec des conserveries.
Nous sommes dans la cour de votre ferme. Il y a le chien. C'est une ferme beauceronne typique, une ferme carrée, donc de forme carrée traditionnelle. Vous pouvez nous la décrire rapidement?
Alors, vous avez donc dans un coin la maison d'habitation entourée de l'étable et de l'ancienne étable et de l'ancienne écurie. Ensuite, on a...
Ancienne écurie où il y a vos bureaux maintenant, votre bureau.
Où il y a maintenant mon bureau, et où avant, donc, il y avait les chevaux de trait pour cultiver l'exploitation. Ensuite, on a les granges dans lesquelles on entassait les gerbes et les récoltes qui maintenant sont transformées en silos à grains, un hangar et de grandes bergeries qui maintenant sont vides et servent pour le matériel agricole.
Monique Poulot, on l'entendait à l'instant, c'est la description d'une ferme typiquement beauceronne au début des années 90. Élément moins anodin qu'il n'y paraît, il y a la présence de bâtiments destinés au stockage, les fameuses granges qui se sont transformées en silos à grains. D'où cette idée aussi, avec cette idée de stock, de grenier aussi à blé de la France. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi avec la Beauce, c'est sa proximité, on l'a dit, avec l'Île-de-France. Dans quelle mesure, finalement, la Beauce a aussi acquis cette réputation-là, parce qu'elle nous essentiellement l'Île-de-France et qu'elle est indispensable à l'Île-de-France.
Alors c'est vrai que dans l'idée de grenier, je n'y mets pas que cette idée on y produit, mais c'est vrai que c'est un grenier pour quelque chose, pour quelqu'un, pour d'autres régions. Et c'est vrai qu'il y a dans cette proximité à l'Île-de-France un élément fort. Néanmoins, quand on regarde dans l'histoire, et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette vision historique, ce n'est pas tant au départ l'Île-de-France que la Beauce nourrissait que le Val-de-Loire, au final les villes Orléans, Tours. Et on a eu très tôt aussi des mouvements vers Rouen, parce qu'en fait la Beauce est au croisement de ces routes qui vont Tours-Rouen, et puis l'autre va vers Paris.
Et Rouen a des grandes capacités de stockage
voilà,
aussi.
Voilà, donc c'est vrai que la relation avec l'Île-de-France, on la date peut-être... d'un peu plus tard, les historiens, je pense à Michel Vauvel, hein, qui a travaillé sur la Beauce au moment de la Révolution, on est vraiment à la fin de l'époque moderne et au tout début de l'époque contemporaine. La Beauce n'ayant pas beaucoup été utilisée, si je puis dire, par l'Île-de-France au moment des très grandes disettes de l'Île-de-France, contrairement à ce que l'on imagine. Mais c'est vrai qu'à partir du XIXe siècle, on va avoir ce lien privilégié à Paris, aussi parce que Paris grossit énormément. Puis je pense qu'il y a peut-être une notion qu'on n'a pas indiquée, mais que j'aimerais souligner, c'est que c'est à la fois un grenier à blé, parce qu'au final, elle n'a pas d'énormes besoins intérieurs. On est sur une région de très faible densité par rapport à la France. Elle n'a jamais eu de très forte densité. On a toujours été sur des densités de l'ordre, on va dire quoi, 20-30 habitants au kilomètre carré, alors que d'autres régions rurales ont eu de très très fortes densités en France. Donc très logiquement, sa production excédait les besoins. Et comme elle excédait les besoins locaux, on exportait, et on exportait d'abord près des villes proches, près de l'Île-de-France, et puis Rouen, où il y a eu très tôt, à partir de Rouen, des exportations vers les Pays-Bas, notamment vers l'Espagne. Voilà, donc c'est vrai que la Beauce entre très vite dans cet imaginaire d'un grenier pour d'autres, la grande ville, et puis pour d'autres, voilà.
Et ça, vous avez raison, Monique Poulot, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que la plus grande ville, on va dire, en Beauce, dans le sens où la Beauce reste quand même une région régionale et pas une administration à proprement parler, ça reste Chartres.
Chartres, qui est quand même plus petit, la plus grande serait Orléans.
Oui, voilà.
Si on l'inclut dedans, mais c'est vrai que Chartres est la seule ville, je dirais, qui est au cœur de la Beauce, alors que toutes les autres villes sont sur le pourtour de la Beauce. C'est un peu particulier comme géographie.
Thierry Pouche, aujourd'hui, donc on a parlé de ces liens qui se mettent progressivement en place, notamment avec le bassin parisien, avec l'Île-de-France. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait où va le blé et puis plus globalement les céréales produites en Beauce? Est-ce que effectivement, c'est une agriculture d'exportation?
Quand vous regardez déjà à l'échelle nationale le poids que représente la production céréalière, c'est quelque chose d'assez conséquent.
De fait,
nous sommes de plus la première puissance céréalière de l'Union européenne. Donc il y a à la fois au départ de la Beauce, enfin de la région Centre-Val-de-Loire, on peut acheminer les grains vers les grandes destinations, notamment l'Île-de-France, mais comme le disait Madame Poulot, ça part aussi vers le port de Rouen, qui a non seulement des capacités de stockage, mais qui a aussi toute une infrastructure maritime pour pouvoir exporter vers un certain nombre de destinations.
Via la Seine notamment.
Via la Seine, donc on peut aller relativement rapidement, et ensuite les bateaux prennent la mer. Donc ça a été évoqué, il y a les Pays-Bas évidemment, qui sont une destination assez fondamentale pour la Beauce, mais il y a aussi la Belgique qui importe beaucoup de blé français, l'Espagne bien évidemment, et il faut pas oublier, alors c'est un peu moins le cas pour la Beauce que pour les autres régions, mais la destination vers l'Algérie jusqu'à présent, parce qu'il faut tenir compte aussi des tensions entre Paris et Alger, qui ont déjà eu des répercussions sur les courants d'échange agricoles, mais on est sur un bassin de production qui produit suffisamment, et je pense qu'il faut à la fois rappeler que la Beauce participe évidemment et contribue fortement à la position de la France en céréales. On est sur une production céréalière où dans laquelle nous sommes en France largement autosuffisants. On dépasse de très loin les 100%. Donc le surplus qui nous reste peut être exporté. En gros, à l'échelle nationale, et la Beauce, encore une fois, y contribue, On est à peu près sur la moitié de notre production qui est exportée. Donc c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. En l'espace de très peu de temps, je pense qu'on va y revenir, mais depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a accompli un saut quantitatif et qualitatif absolument phénoménal qui nous a placés au rang des grandes nations exportatrices.
Alors effectivement, ce saut quantitatif et qualitatif va être fait, je le confirme dans cette émission, mais pour cela il faut partir du début aussi. Vous l'avez dit, Monique Poulot, c'est à partir du 19e siècle que beaucoup de choses changent, notamment dans la relation à l'Île-de-France, mais plus globalement pour la Beauce. On pourrait même dater de la fin du 18e siècle aussi un changement dans le paysage, un paysage que décrit justement Émile Zola dans son roman La Terre, paru en 1887.
C'était des murs bas, une tache brune de vieilles ardoises, perdue au seuil de la Beauce, dont la plaine, vers Chartres, s'étendait. Sous le ciel vaste, un ciel couvert de la fin d'octobre, 10 lieues de culture étalaient en cette saison les terres nues, jaunes et fortes des grands carrés de labour, qui alternaient avec les nappes vertes des luzernes et des trèfles. Et cela sans un coteau, sans un arbre, à perte de vue, se confondant, s'abaissant derrière la ligne d'horizon, nette et ronde comme sur une mer. Du côté de l'ouest, un petit bois bordait seul le ciel d'une bande roussie. Au milieu, une route, la route de Châteaudun à Orléans, d'une blancheur de craie, s'en allait toute droite pendant 4 lieues, déroulant le défilé géométrique des poteaux du télégraphe. Et rien, autre que 3 ou 4 moulins de bois, sur leurs pieds de charpente, les ailes immobiles. Des villages faisaient des îlots de pierre, un clocher au loin émergeait d'un pli de terrain, sans qu'on vît l'église, dans les molles ondulations de cette terre du blé.
Monique Poulot, on a beaucoup évoqué cette image de plaine pour les habitants de la Beauce ou de plateau, c'est selon la position d'où l'on parle. Cette image-là qu'on a très fortement en tête, dans quelle mesure elle est liée à un paysage qui est naturellement ainsi configuré et dans quelle mesure est-elle liée à des transformations humaines aussi qui ont eu lieu de fait dans ce 18e, 19e siècle? Dans quelle mesure on prend conscience que déjà à cette époque-là, il y a une volonté d'aplanir les choses ou en tout cas de profiter au maximum De très grandes surfaces?
Alors, première chose, je pense que les défrichements ont eu lieu très tôt en Beauce. Je crois que là, on pourrait remonter pratiquement à la fin du Moyen-Âge. Mais ces défrichements se sont ensuite poursuivis tout le temps. On a gardé que quelques petits bosquets, c'est vrai que ça existe encore, ces petites réserves de chasse hein, en général, vraiment, mais c'est relictuel. Donc cet aspect de platitude, de planitude avec... Un regard qui n'est arrêté par rien et quelque chose d'important. Et puis, c'est vrai qu'on a très tôt ce qu'on appellerait une concentration des exploitations, c'est-à-dire que les exploitations vont grandir, je parle bien des exploitations, c'est vrai que ces exploitations grandissant, on a eu très tôt, mais je pense que Thierry Pouche va en parler aussi, on a eu très tôt la volonté des agriculteurs de rassembler leurs terres autour de leurs fermes, en des grandes parcelles, et donc assez logiquement, cela a transformé totalement le paysage. Donc, à la fois un paysage transformé par les défrichements, et ça, on est dans un mouvement classique, hein, voilà. Et puis, deuxième chose, cette montée très, très rapide, en quelque sorte, de la grande exploitation, sans aucun doute plus qu'ailleurs, avec une exploitation qui a d'abord été héritière, je dirais, des grandes propriétés nobiliaires ou ecclésiales, hein, le chapitre de Chartres, comme on l'appelle, était un grand propriétaire. Et puis, à partir du 19e, on rentre dans des propriétés bourgeoises, au final, avec des héritages des urbains. Hein. Et puis, ce qui est peut-être remarquable, c'est la prise en main, très tôt, par les fermiers eux-mêmes, donc cette fois-ci des exploitants et non pas des propriétaires, de cette volonté de faire une agriculture sur de grandes parcelles. Bon, ils ne vont pas mécaniser très vite, mais enfin, on a quand même des éléments de mécanisation dès la fin du 19e. Ça a été une région qui a été très... très précoce en quelque sorte dans la mécanisation ou dans les débuts de la mécanisation. On a des lignées de grands fermiers en quelque sorte que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui et qui ont représenté des familles très novatrices, on pourrait dire.
Et on a là la genèse de cette sociologie spécifique à la Beauce, avec ces fameuses grandes familles, et puis ce fameux embourgeoisement aussi, qui commence relativement tôt, et du reste que Émile Zola met en scène. Hein, d'ailleurs, dans La Terre, c'est une histoire de lutte entre grandes propriétés et petites, et notamment à travers le fermier Hourdequin, qui fait partie des grands, on va dire, et qui croit aussi à l'accumulation du capital. Cela dit, Thierry Pouche, et pour revenir à cette époque du 19e siècle, on rappelle que le roman de Zola est sorti en 1887. À cette époque-là, comment se porte l'agriculture française et plus spécifiquement les céréaliers? On sort quand même d'une guerre, on s'avance vers une autre, alors même si c'est dans beaucoup plus longtemps, très concrètement, est-ce qu'il fait bon être agriculteur, être céréalier en France à la toute fin du 19e siècle?
Malgré la précocité avec laquelle certains agriculteurs se mécanisent, mais ça reste quand même très très marginal, le recours à ce qu'on appellerait aujourd'hui des intrants pour essayer de propulser les rendements un peu vers le haut, la frilosité du monde agricole envers par exemple le crédit bancaire, tout cela participe quand même d'un certain retard finalement de l'agriculture française, et même dans la région de la Beauce on est un peu concerné. Donc on sort d'une guerre et on va s'acheminer vers une autre. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que justement, au moment de la Première Guerre mondiale, quand les paysans sont envoyés au front, que leurs femmes sont plutôt mobilisées dans l'industrie d'armement, il reste plus finalement que les personnes âgées et les enfants pour entretenir la terre et essayer de la cultiver. Donc on est autant en France d'ailleurs qu'en Allemagne, on est dans un déficit chronique, ce qui explique que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un appel d'air adressé aux États-Unis notamment, qui ont massivement exporté des céréales vers la France et vers l'Allemagne pour pouvoir justement nourrir la population et les soldats sur le front.
Mais alors justement, Thierry Pouche, sur ces importations, j'avais une question tout à fait de pure curiosité à vous poser, parce que Émile Zola, dans cet ouvrage-là, fait référence déjà aux États-Unis, aux importations. Il fait parler les agriculteurs dans son roman de blé de là-bas et de pain bon marché qui menaçait le pays et qui inondait le marché. Est-ce que déjà, dès la fin du 19e siècle, il y a une concurrence vis-à-vis des importations américaines?
Oui, absolument. Ce qui montre bien, par contraste, finalement, que l'agriculture américaine commençait déjà à se moderniser avant nous. Et ce qui explique, d'ailleurs, puisque vous faites référence au roman d'Émile Zola, que ces importations menaçaient à la fois, en termes concurrentiels, les productions françaises, et en particulier celles de la Beauce, donc, mais en même temps menaçaient un certain équilibre social, finalement. Parce que cette concurrence pouvant entraîner le départ d'un certain nombre d'agriculteurs qui ne pouvaient plus supporter cette concurrence, eh bien, il a fallu, du coup, réagir. Et ça a été les lois Méline, de Jules Méline, donc le célèbre ministre de l'Agriculture, qui a mis des tarifs douaniers qui sont d'une étrange actualité aujourd'hui, justement, parce que il fallait absolument préserver les équilibres sociaux au sein de la société française, et en particulier vis-à-vis des paysans.
Tarif Méline qui sont mis en place en 1892, je le rappelle, vous l'avez dit Thierry Pouche, les choses ne vont pas en s'arrangeant puisque la Première Guerre mondiale de fait instaure une nouvelle forme de dépendance vis-à-vis des importations américaines. Globalement, les terres sont abandonnées, le paysage est sinistré, alors que ce soit dans les champs comme à la ville, dans ces régions-là, dont la Beauce. Les importations permettent d'éviter les pénuries. Jusqu'en 1939, les importations de céréales restent très élevées. C'est le cinquième poste des achats français à l'étranger. Qu'envisage l'État en la fin des années 30 pour sortir de là?
Déjà, à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a des interrogations qui commencent à émerger pour savoir quel va être le sort qu'on va réserver au secteur agricole. Est-ce qu'on va le propulser vers la voie de la modernisation, ou est-ce que, précisément, encore une fois, pour des raisons d'équilibre sociologique, on va essayer de ralentir cette progression de l'agriculture vers une forme de modernisation. Donc il y a eu des débats politiques extrêmement tendus, extrêmement agités à cette époque-là. pour savoir si on allait lancer ou non le processus de modernisation qui était nécessaire. Alors il y a une première forme d'interventionnisme de l'État à partir de 1936 sous le Front populaire, puisque c'est la création de certains offices, notamment l'office du blé, qui permet justement d'acheter les quantités produites sur le territoire et de les rémunérer à un prix relativement attractif. Donc on a déjà là une première forme, mais il va falloir attendre finalement la fin des années 50 pour qu'une vraie prise de conscience politique soit effectuée et pour dire maintenant on donne à manger à toute la population française à un coût raisonnable.
Alors il est difficile d'avoir des enregistrements sonores des années 1920-1930. En revanche, Jacques Demarque, le producteur du Pays d'Issy, encore lui, toujours lui, s'est entretenu avec un agriculteur beauceron, Ephraim Grenadou, qui avait 94 ans en 1991 et qui donc on peut miser sur une vingtaine, trentaine d'années dans ces années-là et qui évoque justement ses débuts dans l'agriculture.
Vous me disiez que vous aviez 100, 150 pièces de terre.
Plus. 300 pièces de terre.
300 pièces de terre. Mais après, il y a eu les remembrements.
Parce que, écoutez, à ce moment-là, j'avais 9 chevaux et puis un tracteur. Mais alors, avec des tracteurs, comment, c'est impossible. Alors, on a fait le remembrement. L'État, enfin, il avait compris que la culture moderne, fallait...
Des grandes pièces.
Des grandes pièces. Et c'est là qu'on a fait des pièces de 40 hectares, 50 hectares. Alors là, ça marche, on fait du boulot, et vous voyez, parce que ça, on est toujours en train de tourner, on est en train de toujours... c'est le progrès, c'est bien, ça. Il y avait des gars, écoutez, il avait des fermes de 50 hectares. Ils n'ont pas, durant la guerre, comme je fais la mienne, et puis il y en a pas aux alentours des grandes, ils n'ont pas grandi d'un mètre. Il n'a pas grandi de rien du tout. Non, ben là, pourtant, il avait déjà des moyens.
Non. On gagnait de l'argent quand même à votre époque.
Hein?
Pour que vous achetiez de la terre, fallait que vous gagniez un peu d'argent.
Ben oui, mais je gagnais de l'argent, monsieur. Tiens. Hein?
Monique Poulot, ce qu'on entend là, bon, c'est un témoignage d'époque d'un monsieur très très âgé, comme je le disais, il a 94 ans au moment de l'enregistrement en 1991, mais ce qu'on comprend aussi, c'est que le foncier est une façon d'accélérer les choses pour l'État français. Alors le remembrement date d'il y a très très longtemps, je crois que le premier date d'environ 1707, donc on peut faire remonter à plusieurs siècles. En revanche, c'est à partir de 1918 qu'une première loi qu'évoque Thierry Pouge dans un de ses articles, la loi du 27 novembre 1918, facilite les opérations de remembrement, il y a cette idée très claire de à grande surface, grand rendement.
Juste une petite remarque, Grenadou a eu un très beau livre aussi.
Il a, tout à fait, c'est la raison pour laquelle il est intégré.
Et c'est vrai qu'en 78, au moment du livre, il est moins âgé, donc c'est sûr que le livre est fort intéressant justement pour voir le changement, puisqu'il passe de 25 à 175 hectares, si je me rappelle bien, et c'est tout à fait significatif du changement de ces fermes beauceronnes, en sachant que ce n'est pas toujours du foncier acheté, hein, bien loin de là, c'est du foncier en général loué, c'est-à-dire qu'on va avoir la disparition des petites fermes, celles qui avaient 20 hectares, qui vont être absorbées par les plus grands. On est vraiment dans cette logique de concentration, hein, comme on l'a évoqué. Mais c'est vrai que le foncier est un enjeu essentiel, là où il y avait parfois 10, 15 agriculteurs par commune, on va passer aujourd'hui, on est à 1 ou à 2. Hein, donc ça montre bien les choses. Alors ce remembrement que vous évoquiez, alors c'est vrai, le remembrement est très ancien. On a eu aussi ce qu'on appelait des remembrements officieux, c'est-à-dire que les agriculteurs pratiquaient des remembrements sans le dire, d'un certain point de vue, pour arranger leur...
Ça faisait partie de la stratégie.
Voilà. Mais on va avoir toute une série de lois. Alors, celle de 1918, on en aura une nouvelle en 1942. Bon, peu appliquée, vu la date, en 1942. L'essentiel sera fait à partir de 1954, hein, pour aller vite. Et on peut dire que la Beauce a connu, je crois, deux grandes phases de remembrement. Une tout de suite dans les années 60, avec là vraiment un remembrement à très grande échelle, c'est-à-dire que l'essentiel de la Beauce a été remembré. Et puis on a eu parfois un deuxième ou un troisième remembrement, puisque le premier... On était allé vers des parcelles peut-être de 7-8 hectares au maximum. Il est clair qu'avec la mécanisation aujourd'hui, d'ailleurs Grenadou le dit bien, ce sont des parcelles beaucoup trop petites, il faut passer à des parcelles beaucoup plus grandes. Donc c'est vrai qu'on voit bien combien ce changement autour du foncier a été un élément essentiel en ayant en tête toujours qu'il y a une distorsion extraordinaire entre ce qu'on appelle le parcellaire de propriété, il parle de 300 parcelles, et puis le parcellaire d'exploitation, a priori, il en a quoi, 5 ou 6 hein, au maximum. Donc on voit bien combien ce remembrement qui a été initié en effet par l'État a transformé totalement les conditions de culture en Beauce mais ailleurs. Mais c'est vrai que la Beauce a été une des zones sans aucun doute remembrée en même temps. Partout ailleurs, ça a été plus progressif, ou tout du moins...
Voilà. Il y a un grand mouvement.
Voilà. Et bon, dernière chose, les remembrements se poursuivent. Il suffit qu'il y ait un passage de TGV, d'une ligne TGV, bien sûr, une autoroute, etc. On va avoir ces mouvements de remembrement qui se poursuivent. Ils sont beaucoup moins importants, mais ils vont quand même encore continuer à transformer le parcellaire.
Thierry Pouche, je fais une petite parenthèse dans notre avancée chronologique et notamment autour de la question des remembrements. Je crois qu'entre 2010 et 2020, 15% environ d'exploitations dans la Beauce ont disparu. Ce sont les chiffres officiels. Quand on parle de disparition de ces exploitations, elles ne disparaissent pas vraiment. C'est juste qu'elles sont de fait absorbées aussi. Et de fait, ça participe à ce mouvement de concentration-là et donc à une forme, alors pas forcément de remembrement, mais aussi d'agrandissement des tailles d'exploitation. Est-ce que c'est ça le mécanisme aujourd'hui ?
Il y a ce genre de mécanisme, c'est même plus que le chiffre que vous avez dit, puisque entre 2010, le recensement dans la région Centre-Val de Loire, comparé à 2020, on est sur un recul de 21% du nombre d'exploitations. On est passé à 19 916 exploitations exactement au moment du recensement agricole 2020. Je rappelle qu'il y en avait 85 000 en 1970. C'est-à-dire au moment où, justement, les effets de la politique agricole française, en particulier le remembrement, la mécanisation, etc., plus les effets de la politique agricole commune, fournissent leurs pleins effets. Et donc ça, c'est important. Et il y a, à l'échelle nationale et à l'échelle de cette région, à peu près le même mécanisme. Moins il y a d'agriculteurs, plus la taille des exploitations est grande. On est aujourd'hui sur la région Centre-Val-de-Loire à 115 hectares de moyenne. C'est 24% de plus par rapport à 2010, où on était à 93 hectares. Et en 70, qui est quand même un point de repère important, on n'était qu'à 30 hectares. Donc on voit bien qu'il y a eu une multiplication de par plus de 3, presque par 4, en l'espace de 50, 60 ans. C'est quand même assez énorme. Et on a bien ce mécanisme à l'échelle nationale et à peu près dans toutes les régions, entre un agrandissement des exploitations qui pose évidemment tout un tas de problèmes sur le foncier, sur le regroupement de ces terres, etc. Au point que nos deux collègues François Pursègle et Bertrand Hervieux parlent d'une agriculture maintenant sans agriculteurs. On pourrait s'acheminer, donc ça pose évidemment plein de problèmes, mais on est vraiment sur...
Parce que qui dit grande surface dit mécanisation possible, oui, et facilité, donc moins de main d'œuvre.
Exactement. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, en 1950, vous aviez un agriculteur en France qui pouvait nourrir 5 personnes. Aujourd'hui, il peut en nourrir plus de 100 à lui tout seul. Donc le gain de productivité est assez extraordinaire. Et il y a de moins en moins d'agriculteurs. Hein. À l'échelle nationale, c'est 396 000. Il y en avait 1 500 000 en 1970. Donc ils sont de plus en plus efficaces.
Et par ailleurs, Thierry Pouche, on voit une forme de cercle vicieux se mettre en place aussi. Si les exploitations sont de plus en plus grandes, potentiellement elles coûtent de plus en plus cher, notamment à racheter. Donc seuls les déjà très très gros peuvent la racheter, ce qui favorise aussi un mouvement de concentration.
Exactement.
Est-ce qu'on sait combien coûte une exploitation dans la Beauce ou en région au Centre-Val de Loire ?
Alors, je peux vous donner le chiffre sur le prix de l'hectare de terre en région Centre-Val de Loire. On est à 6 370 euros. C'est très légèrement au-dessus de la moyenne nationale à 6 200. Il y a des écarts beaucoup plus importants à 20 000 dans la Marne, par exemple. Mais là, on est sur, finalement, des hectares de terre qui sont relativement accessibles en France par rapport à des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, où c'est beaucoup plus cher. Et encore là, des exploitations céréalières, Bon, il y a le parc matériel, il y a les bâtiments.
Ça, il y a quand même
c'est quand même très cher. Si on rachète, c'est à un propriétaire, donc il peut y avoir un impact. En revanche, après, il faudrait comparer avec les élevages, justement, où là, il y a les bâtiments, le cheptel, etc. Donc c'est pour ça qu'on a aussi à la fois le coût d'entrée qui est quand même très élevé pour reprendre une exploitation, mais ce n'est pas le seul facteur pour des jeunes pour se lancer dans le métier. Il y a aussi d'autres raisons, des mutations sociologiques, etc.
Et notamment dans cette région où l'usage Exactement. Des produits phytosanitaires, on va y revenir, peut poser question à la jeune génération. On s'est arrêté à peu près au milieu du siècle. A priori, tous les éléments sont en place. On a parlé du remembrement institué par la loi. On a parlé de ce fameux Office national interprofessionnel du blé mis en place en août 1936. On n'a pas parlé, mais on aurait pu le faire aussi, d'un élément que je trouve extrêmement intéressant que vous évoquez, Thierry Pouche, sur le fait que le traité de Versailles, qui implique la rétrocession de l'Alsace et la Lorraine, permet à la France de bénéficier de mines de potasse alsaciennes et donc d'accès enfin à ces engrais et de rattraper potentiellement une forme de retard aussi qu'on avait pris là-dedans. Et puis dans la Beauce, dans les années 50, tout change.
Aux environs de Chartres, de jeunes agriculteurs français qui reviennent d'un voyage d'études aux États-Unis ont visité une ferme équipée de nouveaux matériels agricoles. Fort de l'expérience acquise lors de leur passage dans les immenses exploitations agricoles du Middle West, les jeunes stagiaires ont pu apprécier le fonctionnement des nouvelles machines et retirer de précieux enseignements quant à leur utilisation et à leur rendement. Grâce au développement de l'industrie agricole française, ces futurs fermiers pourront dans les années à venir bénéficier de ces progrès qui contribueront à augmenter considérablement le rendement du potentiel agricole français.
Un extrait du journal des actualités françaises diffusé le 29 mai 1952. Monique Poulot, la Beauce est à la pointe de l'innovation. Comment comprendre qu'elle se soit lancée là-dedans dans les années 50 et qu'elle soit à ce point, bon là en l'occurrence en lien avec les États-Unis, mais à ce point à la pointe de la technique?
Enfin, le rôle des États-Unis et l'influence des États-Unis a été très important hein, dans les années 50. Dumont, qui a ensuite été candidat à la présidence sous une autre étiquette, publie son livre célèbre « Leçon de l'agriculture américaine ». Il revient des États-Unis et il va vraiment vanter ce modèle.
Il est très enthousiaste,
hein, vraiment. Il va vanter ce modèle et on retrouve des accents que l'on avait dans votre extrait. Donc c'est vrai qu'on va avoir là une jeune génération, parce que on peut dire quand même qu'à l'époque, les agriculteurs sont jeunes par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui n'est pas sans poser problème. On va avoir une jeune génération qui s'enthousiasme véritablement pour la mécanisation, pour la technicité. Enfin, c'est vraiment je dirais vraiment que c'est la technique qui prime. Ils veulent changer aussi leur métier, devenir des techniciens. Hein. On emploie de plus en plus le terme de tractoriste ensuite. Enfin voilà, ils ne veulent plus qu'on parle d'eux comme des paysans. Hein. On change véritablement de registre.
Hein. Agriculteur maintenant.
Voilà, agriculteur, exploitant agricole. Oui. Hein, d'ailleurs, le terme de la FNSEA a été forgé à cette époque-là. Et on va avoir toute une série de structures techniques qui se mettent en place, des groupements où ils discutent ensemble des essais techniques. Ils vont faire des essais sur des nouvelles semences. Enfin, vraiment, on a une prise en charge. Alors, dans d'autres régions, mais même en Beauce, par exemple, la Jacques a été essentielle, hein, la jeunesse agricole catholique, avec une prise en main de cette idée d'une modernisation. Le secteur agricole était le dernier secteur non modernisé, on va le dire ça assez simplement. Hein. Et on a cette idéologie, véritablement, de la modernisation qui se met en place.
Et qui s'emboîte, cette fraction moderniste des agriculteurs, emmenée par la Jacques, justement, la jeunesse agricole catholique, qui va s'emboîter dans les aspirations de la Ve République à placer l'économie française sur les rails du progrès et de la modernisation. Et on appelle finalement l'agriculture à contribuer à l'émergence d'une société moderne qui puisse être en mesure de nourrir sa population sur l'ensemble du territoire et dans la plupart des productions, même si après ça va être un peu plus compliqué pour certaines d'entre elles.
Donc il y a l'idée d'un but, on va dire, plus global, plus élevé aussi, de porter une véritable vision du progrès au niveau de la France, avec cette spécificité de la Beauce, tout de même, voilà, d'avoir été à la pointe. Thierry Pouche, est-ce que c'est à ce moment-là, ce tournant des années 50-60, qu'on peut parler vraiment de la mise en place d'un modèle productiviste de l'agriculture, et plus spécifiquement dans la Beauce ?
Ah oui, à partir de la fin des années 50, du début des années 60, on a une nouvelle révolution agricole qui se met en place et qui répond, comme je le disais à l'instant, aux ambitions et à la stratégie des
pouvoirs. C'est un modèle qui est institué en tant que tel.
Oui, les grandes lois d'orientation de 60-62 établies par Edgar Pisani, le ministre du général de Gaulle, c'était clairement d'aller dans ce sens-là, de le statut du fermage. Enfin, toutes les conditions juridiques, économiques, sociales sont réunies pour propulser l'agriculture vers la voie du progrès. Et on rentre effectivement dans une agriculture. Alors vous avez dit productiviste. Aujourd'hui, le terme il est un peu discrédité. Mais pour un économiste comme moi, productivisme renvoie à productivité. Et c'est un peu pour cette raison d'ailleurs que je disais que on pouvait aujourd'hui, avec un seul agriculteur, nourrir plus de 100 personnes. Contre 5 dans les années 50. Ça, c'est du gain de productivité, c'est-à-dire qu'on montre l'efficacité de l'organisation de la production. Donc, on va rentrer dans cette agriculture productiviste, intensive, comme on voudra l'appeler, mais effectivement, c'est le début. Et ça va être renforcé par la mise en place de la politique agricole commune à partir de 1962, avec un certain nombre d'outils de régulation des marchés céréaliers en particulier, et les agriculteurs céréaliers de la Beauce vont très largement profiter effectivement de cette politique agricole avec les fameux prix d'intervention et puis les restitutions aux exportations qui vont arriver un petit peu plus tard, la constitution d'une organisation commune de marché pour les céréales en particulier.
Se posent tout de même deux questions, une en lien avec la configuration géographique, géologique propre à la Beauce, on l'a dit, qui se situe au-dessus d'une nappe phréatique, mais tous les sols ne retiennent pas l'eau de la même façon, et ce qui pose la question de l'irrigation qui est extrêmement importante dans cette région-là, et puis la question des investissements qui sont nécessaires pour avoir accès à de telles machines, à de tels engins, une question qui est posée là encore dans le pays d'ici.
Au départ, c'est le puits traditionnel de la ferme, puisque bon, en Beauce, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière. Donc, chaque ferme importante, ou chaque hameau, ou chaque village, a son puits. Donc, ça, c'est le puits traditionnel de la ferme, qui est en pierre sèche jusqu'à environ une vingtaine de mètres. Et que mon père, il y a 30 ans, donc, a recreusé jusqu'à environ 50 mètres pour installer l'irrigation sur l'exploitation. Ben sans l'irrigation, avant, ici, c'était, comme on l'a dit, la Beauce pouilleuse, c'était les landes à moutons, c'était les parcelles les moins bonnes et les plus caillouteuses qui restaient en friche. Donc ça a été le développement de notre région, vraiment, c'est l'irrigation, et c'est primordial et vital pour l'agriculture dans le Dunois.
L'irrigation et le maïs, puisque dans nos terres, le maïs se développe très bien avec l'irrigation, puisque on a une terre très légère, avec l'apport d'eau, on arrive à des rendements assez importants.
De quel ordre ?
On arrive aux 100 quintaux.
Remboursement, on rembourse entre 1 000 et 1 200 francs de l'hectare. Donc ça fait dans les 10 à 15% du chiffre d'affaires.
Et dans cette partie, nous ne comptons pas le foncier. C'est juste la partie due au matériel, donc surtout due au matériel d'irrigation qui a grévé quand même de façon importante ce poste.
Mais vous êtes essentiellement, quelqu'un hier me disait, nous sommes des irrigants avant d'être des agriculteurs.
Ouais, disons que nous sommes des irrigants parce que nous sommes obligés, vu la structure du sol, enfin la capacité du sol, nous sommes obligés d'irriguer, et si nous manquons notre irrigation, tout est manqué dans la culture.
Voilà, Monique Poulot, on entendait cet enjeu crucial de l'irrigation, aussi cette question de l'endettement. Très concrètement, est-ce que les agriculteurs, les agricultrices de la Beauce sont particulièrement endettés à partir du moment où on se dit qu'ils sont particulièrement bien équipés en machines et autres moyens de production mécanisés ?
Alors c'est vrai que, bon, on le disait tout à l'heure, toutes les lois ont eu tendance à libérer les agriculteurs du foncier, avec un statut du fermage où ils sont très très protégés, et très logiquement, on a envisagé ça comme un transfert du capital sur le capital d'exploitation, comme on l'appelle, c'est-à-dire les machines. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a en Beauce des coûts élevés. L'irrigation, je pense que ça a été rappelé dans l'extrait, a d'abord été pensée pour le maïs. Et puis très rapidement, au final, c'est le blé qui a été irrigué. Aujourd'hui, le blé est tout autant irrigué que le maïs, qui même a eu tendance à régresser très fortement en Beauce. Sachant en plus que la Beauce a quand même toujours été une région, on ne l'a peut-être pas dit au début, où les quantités d'eau qui tombent chaque année ne sont pas très élevées. On est sur 550 à 600 mm de pluie par an, ce qui est peu.
Et du reste, elle est confrontée dans les années 90 à beaucoup d'épisodes de sécheresse.
Et de plus en plus.
Et de plus en plus.
On pourrait dire aujourd'hui qu'on rentre de plus en plus dans ces épisodes de sécheresse. Donc, très logiquement, l'irrigation devient une nécessité. Au départ, c'était un moyen pour augmenter les rendements. Aujourd'hui, c'est un moyen aussi pour compenser véritablement les contraintes climatiques qui s'exercent de plus en plus. Parallèlement, c'est bien sûr l'endettement au niveau des machines, un endettement avec des machines de plus en plus puissantes. Il suffit de penser aux tracteurs qui sont tous à plus de 150 chevaux aujourd'hui ou aux moissonneuses-batteuses. Et on voit apparaître notamment de plus en plus aujourd'hui... Pendant une période, j'ai envie de dire que les agriculteurs ont été tous plus ou moins équipés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où on assiste véritablement à la constitution d'entreprises de travaux agricoles qui sont tenues par des agriculteurs. Mais ces entreprises vont aller cultiver parfois 1000, 2000 hectares parce qu'au final, le coût des machines n'est plus possible pour ces agriculteurs. Donc on a là quelque chose de assez nouveau.
Monique Poulot, une petite précision très concrète aussi, quand on parle d'irrigation, on a parlé de cette nappe phréatique, cette nappe de la Beauce, mais très concrètement, en cas de sécheresse, qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle vient d'où ? Est-ce que cette nappe est à même de s'assécher ? Est-ce qu'il y a un système de méga-bassines, par exemple ? Comment ça fonctionne ?
Non, actuellement, il n'y a pas.
C'est plutôt des châteaux d'eau qui...
On est véritablement dans une nappe phréatique, en plus très importante. C'est une des plus importantes que l'on a en France. Elle n'est pas menacée, mais c'est vrai que son rechargement est nécessaire et lorsqu'il ne pleut pas pendant plusieurs années, son rechargement est moins important. Donc ça pourrait être à terme une question, d'autant que c'est de l'eau potable qui est aussi consommée, qui est aussi utilisée pour la consommation des habitants. Et il y en a une partie même qui va vers l'Île-de-France. Là, on est sur un transfert,
un réseau.
Donc là, il peut y avoir, avec les conditions climatiques actuelles, une véritable problématique de partage d'eau, même à terme,
conflit
d'usage potentiel tout à fait important.
Et ce, d'autant plus qu'on connaît désormais, grâce à des instruments de mesure précis, le niveau de pollution aussi de ces eaux et qui provoque notamment la colère des collectivités qui, elles, sont confrontées à la remise en état soit des capteurs qui sont saturés, soit de la dépollution de ces eaux tout simplement, soit d'assurer de l'eau potable à ses habitants. C'est un vrai sujet pour la population de la Beauce. Thierry Pouche, on a parlé de beaucoup de filets de sécurité, on a parlé de la mise en place de la PAC en 1962. On a parlé aussi de ces investissements nécessaires, de la mécanisation qui potentiellement, et aussi des engrais qui potentiellement peuvent émanciper les agriculteurs d'une forme de soumission aux aléas climatiques, météorologiques. Pour autant, les agriculteurs sont soumis à une autre forme d'aléas dont il faut absolument parler dans cette émission, celle des marchés. Il faut bien préciser que le blé reste une matière première extrêmement volatile. Ça peut être dangereux pour les agriculteurs de la Beauce.
Depuis 1992, on est rentré dans l'Union européenne sur une série de réformes de la politique agricole commune tous les 6 ans à peu près. Et on s'est aperçu qu'il y avait à chaque fois des baisses de prix d'intervention. Pour vous donner un exemple précis, on est à peu près sur une tonne de blé aujourd'hui sur le marché mondial aux alentours de 210-220 euros la tonne. Au moment de la PAC, dans les années 70, le prix d'intervention, c'est-à-dire celui auquel achetait la commission achetait le blé, il était toujours au-dessus du marché mondial. Là, le prix d'intervention, il est aux alentours de 104, 105. Donc, il n'y a aucun agriculteur qui va se présenter à l'intervention. Il va plutôt vendre ça sur le marché. Bon, c'est évidemment, je synthétise beaucoup, mais il y a effectivement, depuis les réformes de la PAC, et surtout depuis la crise économique et financière de 2008 dans le monde, une entrée dans une volatilité chronique. Et c'est pas une volatilité des marchés et des prix de faible amplitude. On peut aller sur des amplitudes particulièrement élevées. On était en 2008-2009 sur le prix d'une tonne de blé aux alentours de 250. On disait que c'était déjà énorme. On est allé jusqu'à 430 au moment du mois de mai 2022, quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et ensuite, ça retombe. On a perdu 200 euros en l'espace d'un an. Et donc, on le voit bien, les données que nous fournit le réseau d'information comptable agricole en France, qui est un échantillon d'exploitation agricole, sur l'année 2023, dernier chiffre pointé par rapport à 2022, Le résultat courant avant impôt, par actif non salarié, il a chuté pour le domaine céréalier à l'échelle nationale de 83%. Et on est à plus de 50% sur l'excédent brut d'exploitation. Et comme vous évoquiez l'investissement, justement, il faut calculer les charges, les cotisations, les remboursements d'emprunt, etc. Et vous avez un disponible. Or, ce disponible aujourd'hui pour les céréaliers, il est relativement faible, donc ça peut conditionner la poursuite ou non de l'investissement. En revanche, sur la Beauce, parce que j'ai regardé, j'avais pas encore les chiffres 2023 complètement, mais sur 2021 et 2022, on est sur des résultats courants avant impôt particulièrement en nette hausse. Ça, c'est le résultat justement de la guerre en Ukraine qui a propulsé les cours du blé et du maïs en particulier vers le haut à 432 euros la tonne. Et donc, les résultats des agriculteurs de la Beauce en céréales ont été particulièrement positifs. Mais 2023, on s'attend à ce que ça soit complètement balayé en une seule année puisque tout s'est écroulé.
Tout s'est écroulé en raison de conditions météorologiques particulièrement néfastes.
Pour un agriculteur, c'est un problème de visibilité. Il a du mal à se projeter maintenant vers l'avenir.
Mais Thierry Pouche, alors c'est une question naïve de ma part, mais je pensais que justement le blé, contrairement à d'autres matières premières, à d'autres denrées comme le lait, la viande, le blé justement peut se stocker. On l'a dit, la Beauce a des capacités de stockage, des silos. Pourquoi ne pas profiter de cette capacité de stockage, attendre que le prix soit plus favorable? Ça devrait être une façon de se prémunir des aléas du marché.
Oui, le stockage existe, mais quand vous avez une récolte mondiale qui est particulièrement élevée, et on était l'année dernière à plus de 800 millions de tonnes dans le monde, et que vous avez une demande qui est à peu près constante, eh bien vous avez une petite tension à la baisse sur les prix. Et donc votre stock, vous pouvez parfois attendre assez longtemps avant que le prix remonte. Et c'est le cas actuellement. Alors il se situe aux alentours de 210-220, c'est déjà pas mal. Mais on pourrait espérer, vu les coûts de production, qu'ils soient un peu plus élevés. Donc le stockage, c'est très bien, parce que ça permet d'avoir de la disponibilité d'une année sur l'autre de toute façon. Mais je pense pas qu'il faille compter là-dessus et attendre que le prix remonte, parce que en fonction de l'offre mondiale, du climat, de la demande, etc., le prix peut être suffisamment fluctuant, parfois à la baisse, pour justement ruiner les espoirs d'une remontée.
Les coûts de stockage peuvent être importants. Qui plus est, les coûts de stockage sont élevés.
Par ailleurs, oui, c'est un réel coût. Et puis au bout d'un moment, elles ne sont pas non plus infinies.
Voilà, on ne peut plus. Voilà.
Monique Poulot, on a parlé des ressources en eau, d'une forme de vulnérabilité par rapport au marché, entre autres. J'aimerais qu'on parle un peu de ce territoire finalement de la Beauce, mais aussi en termes, on va dire, plus urbains, et notamment à travers ce prisme des produits phytosanitaires dont les agriculteurs de la Beauce ont été très friands à une époque et le sont encore. À partir des années 2000, il y a une prise de conscience sur la pollution des eaux. En 2005, sur les 17 sources de rivières exutoires de la nappe, 14 présentaient des teneurs en nitrates supérieures à 50 mg par litre, c'est-à-dire la norme de concentration maximale admissible pour la consommation humaine. D'autres scandales ont eu lieu depuis. En octobre 2024, en novembre 2024, on se rend compte que des produits utilisés, notamment des fongicides appliqués sur le blé ou l'orge et qui sont classés comme des cancérigènes possibles, sont présents dans ces ressources en eau. Ce sont les communautés, je l'ai dit, qui assument ce coût-là. Très concrètement, on l'a dit, la Beauce n'est pas extrêmement peuplée, il n'y a pas une densité de population très forte, mais dans quelle mesure aussi ce risque de pollution joue sur l'attractivité du territoire de façon plus générale?
Alors c'est vrai que ça devient, je pense qu'il y a une prise de conscience importante, une prise de conscience d'autant plus importante que de nouvelles populations sont arrivées en Beauce. Je pense que c'est quand même aussi une image qu'il faut avoir en tête. Ce qu'on appelle la périurbanisation francilienne a sauté les limites de l'Île-de-France, et donc tout ce qui est autour de Maintenon, par exemple en Eure-et-Loire, aujourd'hui est largement peuplé par des migrants, enfin des pendulaires qui font tous les jours le trajet vers Paris. Chartres lui-même, elle-même, qui était une toute petite ville, est passée à une ville importante. On est quand même sur une communauté d'agglomération de 150 000 habitants. Et on voit très clairement des populations, alors nouvelles, c'est vrai, mais aussi celles qui habitaient là, qui demandent une qualité de vie à la limite meilleure et dont les problèmes de pollution sont véritablement essentiels.
Ici, c'est différent du Midi de la France, de Montauban ?
Tout à fait différent, oui. Bon, ici, c'est la plaine, une plaine immense. C'est assez impressionnant quand on arrive. Il n'y a aucun point de repère. C'est sans que des céréales partout, des légumes. C'est immense, c'est impressionnant.
C'est aussi une autre agriculture, très, très industrialisée.
Industrialisée, bien sûr.
Enfin,
mais
je veux dire mécanisée.
Mécanisée, oui. Bon, il y a des machines énormes, qui sont très précises et très grandes.
Notamment.
Et c'est sûr qu'on ne voit pas ça chez moi.
Oui, on entend un séchoir qui doit être en train de sécher du maïs derrière nous.
Y a aussi les...
On a juste à côté de nous une moissonneuse batteuse qui a un petit problème technique en ce moment, une chaîne qui vient de casser.
Oui, ça arrive. C'est les problèmes de la mécanique. Oui. C'est une machine qui a une coupe de 5 mètres 33 de large. Bon, c'est pas mal du tout. Il y a une tonne à traiter qui fait 24 mètres de large.
Et ça vous plaît, la Beauce ? Ou c'est simplement une expérience
C'est une expérience tout à fait intéressante. Je voulais la connaître parce que bon, c'est le grenier à blé de la France. On en parle beaucoup. Dans le domaine agricole, c'est très important. Ça me plaît, oui, je m'y plais beaucoup. Mais enfin, j'y passerai pas ma vie.
Et voilà, Hélène Maraval, jeune stagiaire venue de Montauban pour observer les machines à l'œuvre et interrogée en 1991 par Jacques Demarque pour Le Pays des Six. C'était le dernier extrait qui en disait long, finalement, sur la Beauce et sur les mythes et la vision qu'on en a aussi plus généralement en France. Un immense merci à tous les deux, Monique Poulot et Thierry Pouche, d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.